été dit de se laver les pieds les uns les autres. Ici, il est question de s'aimer l'un l'autre. Une relation déjà dans un sens individuel, personnel, l'un l'autre. Mais alors, on vient de parler de la mesure, comme je vous ai aimé. Combien cela doit nous toucher? Nous sommes peut-être, et quand on a été élevé, quand on a eu l'immense privilège d'avoir des parents chrétiens, on a toujours entendu parler de l'amour du Seigneur Jésus. On a toujours été baigné dans cet amour. Mais, et ici plusieurs d'entre nous ont connu le Seigneur plus tard, est-ce que c'est pas une chose incompréhensible, absolument incompréhensible que le Seigneur Jésus nous ait aimés, absolument impossible, nous étions haïssables. Et la mesure de son amour, il nous la montre en allant jusqu'à la croix. Mais dans l'Épître aux Éphésiens, quand il est question de... quand l'apôtre Paul prie pour les Éphésiens au chapitre 3, il parle, à un moment donné, au verset 19, de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Connaître quelque chose qui surpasse toute connaissance. Comment pouvez-vous comprendre cela? Comment pouvons-nous le comprendre? Je ne peux pas mesurer l'amour du Seigneur. Je n'ai pas à le mesurer. Mais je sais tout simplement qu'il m'aime et il me l'a prouvé. Et jouir simplement de cet amour. Par ceci nous connaissons l'amour. C'est que lui nous a aimés le premier.
C'est à l'amour divin, nous pourrons citer, qu'il y a le comment et le combien. Comment il nous a aimés, on le trouve dans Jean 13, verset 15. Et c'est dans cela qu'il est un exemple, car je vous ai donné un exemple afin que comme je vous ai fait, vous aussi vous fassiez. Voilà le comment, la manière dont l'amour s'exerce, s'est exercé de sa part, à notre égard, et puis qui, de la même manière, il doit s'exercer entre nous. Le combien, eh bien, nous l'avons aussi dans le même chapitre, verset 34. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous l'un l'autre. On le trouve aussi au chapitre 15, verset 13. Comme je vous ai aimé, que vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. De quelle quantité, c'est si on voulait le quantitatif. Eh bien, le quantitatif, c'est qu'il a laissé sa vie pour ses brebis, comme pour ses amis. Et il n'y a pas un amour plus grand que celui-là. Eh bien, nous avons ce que nous lisons bien facilement aussi dans 1 Jean 3, 16. Par ceci, nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. Et nous, nous devons laisser nos vies pour les frères. Non pas mourir, parce que ce n'est pas utile. Ce n'est pas notre vie sacrifiée, n'a aucune valeur. C'est la vie vécue, présenter nos corps en sacrifice vivant, ce qui est notre service intelligent, un service mutuel. Et l'amour, voilà la mesure, la quantité, telle que le Seigneur l'a manifestée au point de vue de l'immensité, comme dit Jean-Luc, c'est incommensurable. Et le comment, on le trouve, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'exemple qu'il nous a donné. Une manière convenable, car l'amour n'agit pas avec inconvenance, précisément. Il y a dans Jean Corinthiens 13, nous avons donc tout le sujet de l'amour, ce qui est l'amour, ce qui n'est pas l'amour, quels sont les caractères de l'amour, quelle sont la durée de l'amour. Et tout cela, bien sûr, a été manifesté par le Seigneur, et c'est bien sûr l'exemple. Le modèle inimitable et le commandement est nouveau. On pourrait dire qu'il est ancien. D'ailleurs, l'épître de Jean le dit aussi. dans un commandement ancien, un commandement nouveau, c'est le même commandement, et en fait, ce n'est qu'en apparence le même commandement. Mais en fait, le commandement ancien, eh bien, c'est un commandement autoritaire, comme tout ce qui est dans la loi, et sans qu'il y ait aucune ressource pour répondre. C'était donc des commandements, comme toute la loi, qui nous condamnaient. C'est la puissance du péché, c'est la loi, nous dit 1 Corinthiens 15. La puissance de la loi, la puissance du péché, c'est la loi qui donne le caractère de transgression. Eh bien, c'était une transgression de plus. Les hommes s'étaient haïssés l'un l'autre, et, alors que le commandement ancien était de s'aimer comme son prochain, aimer le prochain comme soi-même. Alors ici, le commandement apparemment est le même, mais en fait il est nouveau, en ce sens que, comme quelqu'un vient de le dire, il y a la ressource pour le mettre en pratique. C'est un amour d'ailleurs qui ne vient pas de notre cœur. Nous n'avons pas la source de l'amour, mais l'esprit le verse. Quelque chose qui ne vient pas de nous, qui vient de Dieu, qui est la source. Voilà, tout ça ce n'est pas de la théorie, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, qui nous l'inculque. Nous avons à le recevoir et à laisser cette parole faire son effet dans nos cœurs pour que nous aimions les uns les autres. Et évidemment, cet amour n'est pas en parole seulement, mais en action et en vérité.
Le passage qui vient d'être cité est dans la première épître de Jean, donc au verset 7 du chapitre 2. Et le commandement ancien, il nous est dit dans la première épître de Jean, c'est le commandement que vous avez eu dès le commencement, c'est en relation avec la vie du Seigneur sur la terre. Ce qu'il a manifesté dans sa vie, cette vie divine qui était en lui. Et le commandement nouveau, là, dans la première épître de Jean, eh bien, c'est la parole qui est vécue dans les croyants, qui sont encore, qui ont en eux la vie de Christ sur la terre. C'est donc deux aspects bien importants. Mais il est dit donc, commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Or, dans cette épître de Jean, le commencement, c'est le commencement du ministère du Seigneur sur la terre. C'est lié à sa venue sur la terre, à son ministère.
Un peu pratique peut-être, quand il est question d'aimer comme je vous ai aimé. Notre frère a lu le verset du chapitre 15 tout à l'heure, quand au verset 12 il est dit que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est la répétition de notre verset du chapitre 14 et aussitôt l'explication. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci qui laisse sa vie pour ses amis. Aimer comme le Seigneur, c'est laisser sa vie. C'est simple. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a connu des exemples de personnes qui sont passées par la mort parce qu'il y avait tel frère, telle sœur qui était là et que leur mort pouvait apporter la délivrance. Il y a eu des cas semblables dans l'histoire du christianisme, c'est vrai. Mais plus quotidiennement, pour nous aujourd'hui qui n'avons pas souvent de telles circonstances exceptionnelles. Laisser sa vie, mais c'est laisser simplement ce à quoi on a droit. J'ai le droit d'avoir un peu de temps pour moi. J'ai le droit peut-être d'un certain confort. Mais si j'aime mon frère, le temps qui m'appartient, façon de parler de cette terre, eh bien peut-être que ce temps-là, je le laisserai pour mon frère, pour ma sœur. Ce que l'on possède, et on a le droit par exemple que quand on a raison, les choses soient reconnues. Mais peut-être que dans un esprit de douceur et d'amour, on ne demandera pas à ce que ces choses-là soient reconnues. On laissera ce qui est normal pour nous à cause de nos frères. Et ça c'est très pratique et c'est très quotidien. Que le Seigneur nous aide pour aimer vraiment de cette façon-là.
Dans la première épître de Jean, il y a un passage intéressant, au chapitre 4, au verset 12. « Personne ne vit jamais Dieu. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. » Il y a une autre citation de ce passage, en partie, dans l'Évangile selon Jean, nous connaissons bien, premier chapitre, verse 18, « Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Quand on rapproche ces deux passages, on voit que ce que l'apôtre Jean dit dans son épître exprime ceci. « Personne ne vit jamais Dieu. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu est manifesté. Dieu demeure en nous. Christ est vu. » De la même manière que « Personne ne vit jamais Dieu, le Fils qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. » De la même manière, les saints aujourd'hui, au milieu des hommes, où personne n'a jamais vu Dieu, les saints qui s'aiment les uns les autres, manifestent comme Christ l'a fait, ce que Dieu est, ce que Christ est lui-même.
L'amour est donc lié à la lumière, et lié aussi à l'obéissance au commandement de Dieu. 1 Jean 5, le verset 2, « Par ceci que nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, » c'est bien exactement Jean 13, 34, « c'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements, car c'est ici l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Et en définitive, nous en sommes ramenés au verset 35 du chapitre de Jean 13, « à ceci, en manifestant l'amour mutuel, l'amour les uns pour les autres, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. » Nous sommes pratiquement laissés derrière Christ pour le représenter pendant son absence. C'est en fait être ses témoins. Bon, les témoins supposent la souffrance. Témoins et martyrs, c'est la même chose. Ils supposent faire connaître, moralement parlant, les caractères de celui à qui nous appartenons, notre maître. Alors il y a deux manières de le faire. C'est dans l'amour et dans la lumière, et les choses vont ensemble. C'est tout à fait remarquable de voir comment, dans Jean 15, et nos frères ont cité deux fois le passage déjà, l'amour et la lumière, l'amour et la lampe vont ensemble. Pourquoi la lampe d'Éphèse a-t-elle été retirée? Parce qu'elle avait abandonné son premier amour. On ne supportait pas les méchants à Éphèse, mais l'amour pour Christ, le premier amour, non pas historiquement, mais l'amour du cœur, profondément du cœur pour Christ, cet amour-là s'était éteint, avait disparu. Eh bien, la lampe allait être ôtée. Nous avons à nous exhorter justement à revenir à ce premier amour qui a été abandonné. C'est ainsi que nous pourrons être effectivement les disciples, les témoins de Christ dans le monde qu'il a rejeté.
Premier épître de Jean contient bien des exhortations, des avertissements comme des encouragements au sujet de l'amour, sa manifestation dans le croyant. Deux points seulement. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, il est menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons ce commandement de sa part, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Il est donc possible qu'il y ait dans notre cœur un sentiment qui n'est pas de l'amour, mais de la haine. Puissions-nous nous laisser atteindre par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Christ dans nos cœurs, pour que si quelques mouvements de cette espèce montent dans notre cœur, ils puissent être reconnus et jugés. S'il y a un grief contre un frère, qu'il ne puisse pas être ôté. S'il y a des paroles amères, des paroles dues, attention. Et ce faisant, nous voyons que si nous avons tel mouvement de cœur à l'égard de nos frères, nous nous condamnons nous-mêmes. Il est menteur. Et de notre côté, l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Et c'est suivi par le verset auquel vient de faire allusion. Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu et que nous gardions ses commandements. Quand nous pensons à un frère dont nous ne comprenons pas l'action ou les paroles, est-ce que nous sommes enclins à dire « Oh, ce frère n'a pas d'amour, il n'aime pas ». Attention, attention. Savons-nous, sommes-nous en mesure de sonder ce qu'il y a dans le cœur? Est-ce que simplement ce qu'il a fait ou la manière dont il agit vient heurter quelque chose de ce qui est notre pensée, notre manière de voir, notre conviction ou quelque autre chose qui trouve en nous une certaine contradiction? L'amour de Dieu a été versé dans le cœur de notre frère. Il est possible qu'il ait soit défaillant aussi à cet égard, comme je le suis, et qu'il ait besoin de juger les choses devant Dieu, mais ne l'accusons pas d'emblée de manquer d'amour. Il y a bien des circonstances où l'obéissance peut conduire à une attitude que on juge trop facilement comme un manque d'amour. Souvenons-nous que l'apôtre, à l'égard des Corinthiens, disait que si même vous aimant beaucoup plus, je devais être moins aimé.
Il n'y a pas de passage dans la parole de Dieu où on soit exhorté à être aimé. Souvent on dit qu'il n'y a pas d'amour là, ou dans tel ou tel, les frères et sœurs ne manifestent pas d'amour, etc. Mais je suis désolé, le problème n'est pas là. Le problème, nous l'avons dans ce verset que nous venons de lire, c'est que vous vous aimiez l'un l'autre, c'est-à-dire que cet amour qui est versé dans mon cœur par l'Esprit Saint, c'est moi qui dois le manifester, c'est moi qui dois apprendre à suivre le Seigneur, à laisser ma vie pour les frères, et non pas l'inverse. Et l'amour que le Seigneur attend que nous manifestions, c'est moi vers l'autre, et non pas l'autre vers moi. Maintenant, au verset 35, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. » Tous connaîtront dans le monde. J'ai lu il n'y a pas longtemps un papier. C'était un chrétien qui avait entendu une conférence sur l'islam par un islamiste. Alors on lui avait présenté l'islam d'une façon assez attrayante. Et à la sortie, il va voir le conférencier et lui dit « Mais je comprends pas, vous me parlez là de l'islam, c'est bien. Mais que faites-vous de l'intégrisme? Et que faites-vous de Roménie? Et que faites-vous des hommes qui sont tués à cause ?» Ah, on lui a répondu, ça, c'est pas l'islam. Et alors, en réfléchissant après, ce chrétien se dit, mais voyons, si je devais faire une conférence devant des musulmans, alors on m'invite, imaginons, on invite, on fait une conférence devant des musulmans sur le christianisme. Alors, on va dire, nous les chrétiens, nous connaissons le Dieu d'amour, nous jouissons de la paix, nous jouissons de la joie dans le cœur, indépendant des circonstances. Nous dirons, on peut aller longtemps comme ça, nous sommes unis, un seul corps. Nous ne pratiquons pas la médisance, mais l'amour. Nous nous aimons les uns les autres. Alors peut-être que les musulmans vont dire, mais où voyez-vous cela? Et on peut se poser la question pour nous, pour moi. Ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas ce que nous disons. Ce n'est pas les grandes démonstrations théoriques. Mais ce que nous montrons, et ce qu'il y a dans notre vie les uns avec les autres, notre vie avec le Seigneur. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous. Quel puissant témoignage qui montrera Christ aux autres.
Eh bien, ce que l'on pouvait voir au début des Actes, n'est-ce pas? Quand il est dit que ils avaient la faveur de tout le peuple. Quand il est dit qu'on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus, eh bien, les fruits de cet amour réciproque étaient visibles de tous. Bien clairement, et c'est ce que nous pouvons bien demander au Seigneur de nous donner, de réaliser. Parce que autrement, disons-le, le message ne passe pas.
Nous savons que dans le chapitre 17, dans la prière du Seigneur, il y a trois unités. L'unité du centre, cette unité qui est en témoignage. les rachetés du Seigneur, ceux qui appartiennent à la famille céleste encore sur la terre, sont un pour que le monde croit. Il me semble qu'on peut dire que le ciment pratique de cette unité entre les saints, c'est justement cet amour que le Seigneur invite chacun d'entre nous à manifester les uns pour les autres, en témoignage devant ce monde. Alors, si mon frère, excusez-moi l'expression, m'énerve, ne manifeste pas beaucoup d'amour, que le Seigneur nous prête ses propres yeux pour voir dans ce frère-là, comme dans tous mes frères, sans exception, le frère pour lequel Christ est mort. Personne n'a un plus grand amour que celui-ci qui laisse sa vie pour ses amis. Le Seigneur l'a fait. Il est mort pour moi comme il est mort pour mon frère. Et cette expression se trouve deux fois, en Corinthiens 8 et Romains 14, pour montrer justement que ce dont nous avons besoin avant tout, c'est du support mutuel dans l'amour, l'esprit de pardon, l'esprit d'abandon de nos propres intérêts, de notre propre suffisance, pour considérer dans chacun de nos frères celui pour lequel Christ est mort.
Cette expression à tous, tous connaîtront côté mes disciples à cause de l'amour qui est entre vous. Alors, évidemment, il faut que l'amour qui est entre nous soit visible. Parce que, quelquefois, on dit, nous sommes fermes et nous défendons la vérité. L'amour se réjouit avec la vérité. Alors, nous sommes obligés d'avoir une attitude un peu dure, tout en aimant ce frère, mais à cause de son cas qui est pénible. Alors, je ne sais pas si c'est ça le témoignage. Le témoignage, il faut que ce soit visible, il faut que le monde voit cet amour, comme que ce soit visible en pratique. Ça ne veut pas dire qu'on va approuver un frère qu'on ne peut pas approuver. On peut absolument haïr la conduite d'un frère et aimer le frère. C'est bien ce que le Seigneur a fait, ce que Dieu a fait. Il a aimé le pécheur et pas le péché. Alors, dans Acte 5, vous voyez, on a cité d'ailleurs. Alors, tous, au verset 12, tous étaient d'un commun accord au portique de Salomon. Il y avait aussi beaucoup de puissance. Et alors, le peuple les louait hautement. Ça se savait. Et beaucoup de croyants, d'autant plus nombreux, se joignaient au Seigneur, et une multitude tant d'hommes que de femmes. Voilà la portée de ce témoignage visible de l'amour. Évidemment, nous ne sommes plus à ce temps que Jérémie appelle la grâce de la jeunesse, le temps des fiançailles, du début de la jeunesse de l'épouse, évidemment. L'épouse a des rides et des taches, mais enfin, je pense que l'exhortation demeure, il faut que l'amour entre nous se voit, et ce sera seulement comme cela qu'il y aura un témoignage.
Et quand il y a de l'amour manifesté, est-ce que nous n'avons pas le droit d'en parler? On a dit tout à l'heure que quand on pense quelque chose qui nous pèse vis-à-vis d'un frère, on ne doit pas en parler aux autres. Que le Seigneur nous aide pour le réaliser. Mais quand il y a quelque chose d'heureux, quand il y a quelque chose qui est digne de louange, que ces choses occupent vos pensées, c'est certain qu'il y a des sujets de tristesse aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y aurait que cela? Est-ce que le Seigneur n'agit pas et ne produit pas encore aujourd'hui de l'amour dans mon frère, dans ma sœur? Alors, sachons voir ces choses, sachons en parler l'un à l'autre, parce que c'est à la gloire du Seigneur, et sachons rendre grâce encore aujourd'hui pour l'amour manifesté chez l'un et l'autre.
Que vous ayez de l'amour entre vous. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là quelque chose? Est-ce que nous sommes toujours disposés à recevoir l'affection ou les marques d'amour des autres? Est-ce que quelquefois nous secouons pas un peu comme pour garder notre indépendance vis-à-vis des autres? Il y a aussi cet aspect qui ne doit pas être méprisé. Il n'est pas dit ici, si vous vous aimez les uns les autres, quoi que ce soit bien sûr vrai, c'est l'exhortation que le Seigneur présente, mais si vous avez de l'amour entre vous, effectivement, pas seulement dans le secret du cœur, mais manifesté par des actions, un amour manifesté qui est aussi reçu.
croyez pas qu'on peut aussi parfois se dire, mon frère, tu sais, je t'aime?
Est-ce qu'on ne peut pas faire une différence entre amour et communion? Nous sommes exhortés à nous aimer les uns les autres, mais il peut y avoir des degrés dans la communion. Il y en avait entre Christ et ses disciples, Jean et Pierre.
L'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, l'amour apparaît comme un vêtement, au verset 14. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Et l'amour est présenté là comme le lien de la perfection. Nous ne sommes pas appelés à créer une unité. Nous sommes appelés à entrer dans une unité qui a été faite. Et nous trouvons ici que l'amour est le lien de la perfection. Et si nous lisons le début du paragraphe, nous trouvons différentes manifestations de l'amour, ce qui rejoint un petit peu l'expression sur laquelle nous nous sommes arrêtés, qui vient d'être soulignée, « si vous avez de l'amour entre vous ». Donc il doit y avoir ce vêtement, c'est-à-dire cette manifestation de ce Christ, de ce que Christ est. À la fin de Romains 13, nous sommes invités à revêtir aussi le Seigneur Jésus-Christ. Mais pas seulement ce vêtement extérieur avec seulement une forme passive, mais une manifestation qui dit quelque chose de cette apparence. Il faut que ce soit une réalité. Et là, dans cet amour cultivé pratiquement, mais pas cultivé par ce que nous pouvons ressentir ou exprimer ou apprécier comme un homme apprécie en mélangeant affection et amour, mais par ce qui est de Dieu véritablement. Dieu est amour. L'amour du Christ, nous l'avons souligné, surpasse toute connaissance. Alors là, il y a un lien de perfection qui s'installe. Et tout, même dans la réalisation pratique de ce que nous avons vu au début du chapitre 13, change tout à fait dans son aspect pratique. Parce que c'est dans la manifestation de l'amour que les choses trouvent leur place. Et quand on se sait aimé, on est disposé à recevoir. Et si l'on vient avec amour pour dire quelque chose, eh bien, des cœurs qui étaient retenus, hermétiques, sont brisés. Et les choses qui étaient à recevoir sont reçues. Il y a là un lien, véritablement un lien de perfection.
Je crois que le temps ne nous permet pas de méditer beaucoup la fin du chapitre. Rappelons-nous simplement que l'apôtre de l'amour a été particulièrement doué par le Seigneur et par le Saint-Esprit, pour dans ses épîtres nous montrer comment la vie de Dieu, manifestée en Christ, homme sur la terre, est maintenant donnée à connaître au monde dans les rachetés. Pierre n'est pas appelé l'apôtre de l'amour, mais ce chemin-là, qui était mystérieux pour lui, qu'il aurait voulu prendre à la suite de son maître, peut-être même en devançant son maître, il n'a pas pu le prendre sur le moment même, puisque Christ entrait dans la mort pour sauver Pierre, pour prendre sa place sous la colère de Dieu. Mais le Seigneur a fait l'honneur à son disciple Pierre de donner sa vie pour lui, ce qui n'a pas été l'occasion pour Jean, pour autant que l'histoire nous le présente. Alors pour terminer ce sujet de l'amour, je voulais prendre l'exemple des Thessaloniciens et lire deux versets dans les deux épîtres. En 2 Thessaloniciens 1, c'est l'expression de la mise en pratique effective du commandement du Seigneur de Jean 13, 34 par les croyants de Thessalonique. 2 Thessaloniciens 1, le verset 3, « Votre foi augmente beaucoup et l'amour de chacun de vous tous, l'un pour l'autre, abonde, en sorte que nous-mêmes nous nous glorifions de vous dans les assemblées de Dieu. Il y a la foi, il y a l'amour, il n'y a plus mention de l'espérance. » De sorte que nous pouvons revenir dans la première épître où l'espérance du retour du Seigneur était placée comme une espérance vivante, consolante et sanctifiante devant les cœurs des Thessaloniciens. Et en 1 Thessaloniciens 3, le verset 12, c'est une prière de Paul pour les Thessaloniciens. Nous pouvons bien la reprendre à notre compte. Quant à vous, que le Seigneur vous fasse abonder et surabonder en amour les uns envers les autres et envers tous, comme nous aussi envers vous, pour affermir vos cœurs sans reproche en sainteté devant notre Dieu et Père, en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. La foi, l'espérance, l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour Christ, l'amour pour les âmes, l'amour pour les frères, l'amour les uns pour les autres. La foi, et en même temps, l'espérance et l'amour. L'espérance, ces choses sont liées dans notre cœur à l'imminence, à la réalité de la réalisation de la promesse de Christ. Une bonne espérance par grâce et une promesse que le Seigneur va revenir là où moi je suis, afin que vous soyez aussi.